Merci beaucoup Pascal. Donc on enchaîne sur la première table ronde de l'après-midi autour du hoï et du hardcore. Donc,
à la pause, tu me renseigneras sur
le et avec, le sous-marin également. Donc Momo, Loïc, John Curiac s'il est là, enfin Marc Russo. C'était dans le cadre de la session Marseille, Chapelle, Punk et Garage. Alors bon, Garage, c'est plus en référence au livre de Pascal. Et là, donc, on a la chance d'avoir Stéphane Disagri, Momo. Yann de la Maison Hantée a dû partir, mais il était là tout à l'heure. On a également, il s'excuse. On a également Loïc Tagnou qui est avec nous. Et Marc Russo, voilà. Donc, on est très contents. Donc, peut-être qu'on peut commencer par une question générale qui s'adresse à tous sur comment, voilà, se déclenche, quel est le déclic de l'entrée dans le punk, en fait.
Je laisse parler les vieux, les plus vieux. Je vais laisser parler le plus ancien.
Merci, ta politesse, Momo, c'est gentil. Ben, le déclic, moi, ça a été, c'était un dimanche, un clip sur Chorus, l'émission d'Antoine Decaune. Et j'ai vu un clip de Clash qui était Tommy Gunn. C'était en 79, j'avais 13 ans et j'ai monté un groupe. Voilà, tout simplement. Et puis.
Qui s'appelle
Warrior Kids. Et ça a pu changer depuis. Clash, ça a été mon groupe préféré. Ça l'est toujours et ça restera toujours pour moi quelque chose de très, très personnel, très. Ce qui m'a mis je dirais, le pied à l'étrier. Et voilà, quoi. Ça s'explique pas après.
Ouais, alors moi aussi, c'est les Clash. Pareil, en 78. En fait, je trouvais ça trop mou. Désolé. Et j'ai écouté les Sex Pistols. Et après, je suis plus parti sur le punk début 80. Avec Exploited, toutes ces choses-là. Pour, en fait, au milieu des années 80, partir dans le hardcore. Voilà. Et j'ai fait partie des premiers, mais j'étais aussi à Estrangin au milieu des années 80 avec les punks d'Estrangin et voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Et la musique, j'ai commencé avec mon premier groupe. Ouais, je devais avoir 14 ans et j'étais batteur, un mauvais batteur, un batteur de punk.
Moi, ce sont Clash aussi, les Pistols, ça c'est sûr. Après Dead Kennedys, Ramones, mais Clash, Pistols, très important. C'est vrai que Clash est un peu plus cool, mais c'était intellectuellement très important dans la rébellion. Moi, ce sont des Rastas, des Guyanais qui m'ont fait découvrir des créoles, qui m'ont fait découvrir le punk rock avant que je rentre en France, parce que j'ai vécu 3 ans en Guyane. Et il y avait un combat, il y avait des choses qui se rapprochaient entre le reggae et le punk, qu'on trouve dans les Clash d'ailleurs avec Police and Thrive. Et Punky Reggae Party après avec Bob Marley, Lee Scratch Perry, tout ça. Et donc ce sont des Guyanais, des Blacks qui m'ont fait découvrir le punk. Voilà.
Et tu, à travers les Clash aussi, ce qui t'intéressait, c'était la question politique.
Ouais,
et voilà, qui va marquer aussi ton entrée. Enfin,
oui, c'est important, ouais, parce que dans le punk rock, bon, déjà c'est les Sex Pistols, parce que les Sex Pistols c'était quelque chose qui déchirait, quoi. Donc c'est très rebelle. Ça c'était important, la rage, la hargne, la rébellion. Donc quand même, Sex Pistols c'est quand même anarchiste, je trouve qu'ils l'ont bien fait, malgré qu'on dise que des fois c'est un groupe commercial, c'est pas vrai. Ils ont tout déchiré, d'ailleurs ça a permis aussi au Clash de se former, puisque Joe Strummer, en assistant à leur concert, il s'est mis au punk, hein. il a quitté les groupes de bar rock et de pub pour faire du punk, quoi. Voilà, donc c'était important. C'est important, je pense qu'il faut rappeler que quand même le punk c'est de la rébellion, c'est de la rage, et c'est de la contre-culture, quoi.
Et je continue du coup sur ton parcours et après on mettra en regard. Donc à partir de là, tu participes activement à la création d'une scène alternative dans le sud.
Ouais. Alors ce qui s'est passé, c'est en rentrant en France, donc je suis arrivé à Aix et dans les Bahus à Aix, il y avait quand même pas mal de concerts dans les lycées, hein, des concerts punk. Hein. Et du coup, après, en arrivant à Vitrolles aussi, j'avais un copain qui partait à l'armée, qui était chanteur dans un groupe qui s'appelait Cité Dortoir, et j'ai fait un concert avec au Bahut, Pierre Ménès France à Vitrolles, avec un groupe, donc Cité Dortoir issu des quartiers, et un groupe de Aix, Diez, qui était plutôt punk clash, mais qui là avait un peu viré de web, donc il y a eu un peu des bagarres aussi dans ce concert. Et bref, on faisait aussi des émissions de radio, des choses comme ça, on était très intéressés. Il y a eu l'émergence aussi donc des émissions comme Chorus, Les Enfants du Rock, Les Bérus, hein, qui sont arrivés aussi. Il y avait toute cette scène alternative, enfin Montpellier, qui a fait qu'on aille plus loin et qu'on a envie de faire des concerts. Et donc on s'est organisé, donc on faisait des émissions de radio, des fanzines et aussi des concerts, quoi. Et donc progressivement on a fait des concerts, donc avec Momo aussi.
Et alors Momo, justement, c'est là où vous croisez. Est-ce que tu peux nous parler?
Moi j'ai commencé en fait beaucoup plus tôt. Moi, mon premier concert, je l'ai fait en 89. C'était à l'Arsenal des Galères. Non, en tant qu'organisateur, hein. Ah. En tant qu'organisateur. Et ouais, en fait, moi, c'était juste moi l'envie d'organiser des concerts et d'être dans la scène. C'était j'avais envie de voir les groupes chez moi qui jouaient autre part. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. J'ai eu 25 ans d'organisation de concerts et en fait, voilà, c'était j'en avais marre d'aller à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse ou à l'étranger pour aller voir des concerts et c'était de dire voilà, moi, j'ai envie de faire ces groupes-là. Il faut qu'ils viennent à Marseille. Marseille, il y a une scène. Elle est ce qu'elle est. Hein, et avec ses problèmes de salle, avec son problème du public, mais au moins, on fait des groupes, on les fait venir ici. Et c'est parti comme ça, en fait. Ouais, j'avais mon premier concert. Ouais. C'était un groupe australien, australien, qui s'appelle The Hardons. Et voilà, je les ai fait jouer à l'Arsenal des Galères. Je peux vous dire même la date, 23 septembre 1989. Donc c'était vraiment le premier concert. On est allé là-bas à l'Arsenal et on leur a demandé. Ils étaient en train de faire les travaux pour faire le trolleybus. Et voilà, on a fait venir ces mecs-là. C'était le bordel au niveau de l'orga. Il y avait, enfin, on avait rien prévu, qu'on n'était pas organisateur, quoi. Tu vois, donc.
Mais je suis d'accord avec ce qu'il dit Bobo, c'est-à-dire que sur Marseille, il y avait rien, il y avait tout. Alors il y avait rien, donc du coup on a pu exister parce qu'on avait envie de faire venir des groupes qui passaient pas, hein, dans le hardcore mais dans le punk, les Tugs et des groupes comme ça aussi, Closer Records, enfin il y a plein de labels et il y a plein de choses qui se faisaient en France et ça se passait pas forcément à Marseille et c'est pour ça qu'on a aussi construit des choses, enfin ça se faisait pas forcément, mais comme beaucoup de choses qui se faisaient à Marseille aussi parce que il y avait Serge Lestec, Scotto, il faisait pas mal de concerts, hein, faut le rappeler, il y avait l'Arsenal des Galères, il y avait des bars aussi où il y avait des concerts, moi j'ai vu les Tugs dans un bar à Marseille, je sais plus, du côté de... Je sais plus trop où, d'ailleurs.
Et Marc, toi, c'est la problématique inverse. Enfin, le groupe commence à Marseille, mais en même temps, assez rapidement, vous tournez, vous êtes dans d'autres villes... D'autres...
Pas rapidement, on est rapidement interdit, surtout. Ouais, parce qu'il y a quand même deux skins sur trois. Donc ça pose des problèmes. Hein. Politique, quand même. Il parle des Bérus, oui. Moi, les Bérus... m'inspire rien, mais vraiment rien. Un groupe avec boîte à rythme, déjà, ça me gonfle. Pour moi, j'aime le punk rock. Pour moi, après, c'est les punks à chiens, tout ça, les trucs qui me plaisent pas, quoi. Hein. Mais oui, on a eu des problèmes à ce niveau-là. Et puis après, après, on a tourné un petit peu dans toute l'Europe. Et en 2012, on a fait un gros tour aux USA et au Canada. Ouais, voilà, donc... Mais bon, même si Momo dit qu'il était un mauvais batteur... Pour moi, mieux vaut un mauvais batteur qu'une boîte à rythme dans un groupe. C'est mon avis. Hein.
Alors, peut-être qu'on peut passer, Momo, à quelques images. Comme ça, tu nous parles avec des visuels de différents concerts dont on a parlé qui ont marqué, en fait, les mémoires. Donc là, moi, sinon, j'avance. Et puis, ouais. Tu me dis, parce qu'on va peut-être pas, on va peut-être pas tout mettre.
Non.
Mais,
celui-là, il est bien. Ouais. Celui-là, il est bien, la plaine du Far West, là. Je sais pas. Ouais, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de cet épisode de la scène punk marseillaise là. C'était parti. Alors on parlait de violence ce matin et ouais, en fait, ouais, Marseille, ça a toujours été quand même assez violent. Ça s'est assagi heureusement, mais c'est vrai que dans les années 80. Alors moi, j'ai pas connu les années 70, donc je veux pas en parler. Et puis en même temps, ça. Je vous avoue, c'est pas mon problème. Mais voilà, les années 80, il y a eu quand même des bonnes bastons. En fait, c'était surtout un côté. Le problème de la scène marseillaise, qu'elle soit punk, qu'elle soit ce qu'elle veut, c'est qu'on se disait par mail. En fait, on est marseillais avant d'être français. Et la scène punk, et la scène oi, et la scène hardcore, elle est marseillaise avant d'être française. Et c'est pour ça aussi. Qu'on n'a jamais malheureusement explosé parce qu'on avait cette forme de rébellion envers le reste de la France et on se disait tous en fait on est marseillais avant tout et après il y a le reste de la France et ce qui est toujours le cas pour la plupart, enfin en tout cas pour moi et pour la plupart de certains d'entre nous, mais parce qu'on est, moi je me rappelle dans les années 80, dès qu'on disait qu'on venait de Marseille, moi je m'en souviens quand je montais à Paris, que j'avais 14-15 ans et qu'on croisait les punks de les punks ou les skins de Marseille, Oval ou quoi, c'était ah ouais, ah mais vous êtes de Marseille, vous êtes la province, voilà. Et ça, j'avoue franchement, ça me cassait bien les couilles. Et ça me les casse toujours.
Ça a pas changé, hein.
Et ça a pas changé, malheureusement. Et j'ai vécu 10 ans à Paris, et c'est souvent ça. Donc, en fait, l'idée, c'était de dire, voilà, moi, je suis de Marseille, les autres, ils nous aiment pas, nous, on les aime pas, nous, on va faire les groupes qu'on a envie de voir, on va les faire venir ici, on va perdre de la thune, parce que Pascal, il parlait de 8 000-9 000 euros. Je pense que moi, je peux multiplier ce chiffre par 3. Hein. Il y a des
vous
copains à la
maison
là. Fred Unfit qui est là-bas, qui est fouf, hein, ou même Ahmed, hein, qui est là-haut, on peut dire le nombre de concerts que j'ai organisés, ou même Loïc, hein, qui est là, vous organisez des grands groupes qui tournent dans d'autres salles en France où il y a 300 personnes, et vous arrivez à Marseille, vous avez 50 gugus, et vous dites, bon, ouais, voilà, NoFX. Vous connaissez peut-être NoFX, certains d'entre vous, ils ont joué à la maison hantée.
13 personnes.
13 personnes. 13 personnes. Ouais. Et au moulin, 2006 ans après. Voilà. Donc ça, c'est la particularité de Marseille.
Ils n'ont pas été au moulin après.
Non, ils n'y étaient pas.
Je passe un peu, ouais. Tu me dis...
Ouais, alors là, j'avais amené plein d'archives. Ouais. Je sais pas s'il y en a... Alors, c'est un peu... Ça, je sais pas s'il y en a qui ont connu ce fanzine-là, Aioli. Non, personne. Aioli. Oui. Donc, il y a ce fanzine. Alors là, il y avait les trucs sur les vies d'ordures. Là, il y avait ce fanzine-là aussi, que ça, c'est un truc... Alors ça, c'est un truc de la ville d'Aubagne, graffiti. Le concert de Gogol, c'était à l'Arsenal des Galères.
Serge.
Ça, c'est Serge Scotto qui avait organisé ça, les steaks. Ça, c'était Marina, et je ne me rappelle plus.
Alors, Marina Mars, elle est.
Morad.
Pas, elle est pas
merci.
Là.
Morad. Voilà, j'ai ramené des vieux, des vieilles. Voilà, ça, c'était le groupe Les Rapistes que tu parlais, Pascal, tout à l'heure. Donc tout ça, ce sont des vraies archives papier que j'ai conservées soigneusement.
Et du coup, pourquoi c'est si important, cette mémoire? Comment ça se fait que tu aies conservé autant de choses?
Parce qu'on est collectionneur quand on est punk. On est collectionneur, on achète vinyle, on achète des cassettes, on achète des... On a les archives du groupe, on a... Voilà, et puis c'est... Je sais pas. Moi, en tout cas, je sais que je... Et encore, je pense que j'en ai perdu plein, mais moi, j'avais une quantité phénoménale de disques, quoi, de fanzines. Ouais, j'ai tout vendu. C'est pour payer mes dettes. Mais ça fait partie... Je sais pas, mais tous, là, tous les gens qui sont dans la scène punk ou quand dans la scène rock, on garde tout. Moi, je sais que j'ai gardé tout. Maintenant, je suis en train de m'en débarrasser parce qu'en fait, ça reste dans des caisses. Mais ouais, j'ai gardé les trucs, ouais, vraiment qui me tenaient à cœur.
Tiens, c'est quelqu'un à la fin qui te demande à cette liste, tu te demandes pourquoi.
Ouais.
Mais on est tous comme ça. Un peu.
Voilà, là, moi, je voyais, là j'ai.
On va pas. Il y a des éléments graphiques, ouais. Quand même. Il y a des choses qui sont intéressantes.
Voilà,
aussi,
ça c'est des photos. Ça, c'est des images des c'est 85, ça. Ça, c'est 85, c'est un concert du groupe Les Vies d'Ordures, groupe d'Aubagne, et il y avait un concert pour la paix, organisé par la ville communiste d'Aubagne, et en fait, le concert, il y avait ce groupe-là, Les Vies d'Ordures, qui jouait, et en fait, le concert, ben, au bout de 5 minutes, il est parti en baston général.
Pour la paix.
Donc, c'était pour la paix. Donc, le concert a continué, mais si vous voulez, il y avait une barrière au milieu de la salle. Et il y avait les punks d'un côté et les autres de l'autre. Voilà.
Et je vais rebondir parce que tu parles d'Aubagne. Il y a aussi Vitrolles. Donc on se rend compte qu'en fait la scène punk à Marseille, c'est pratiquement toute la région en fait.
Ouais.
Et on peut peut-être parler voilà de l'aventure du sous-marin et avant d'introduire un peu peut-être par des images d'archives que Lina nous a prêtées.
Bonsoir. À Vitrolles, hier, le conseil municipal, la majorité Front National a voté le changement de nom de la commune rebaptisée Vitrolles en Provence. Des rues également ont été débaptisées, ce qui soulève l'indignation des militants anti-FN. Par ailleurs, un concert de rock sera donné ce soir en signe de soutien à l'association Le Sous-Marin, ce café musique, lieu culturel, menacé de disparition par la municipalité vitrolaise. Frédéric Besombe et Dominique Charles.
Ici, on a choisi la décontraction, l'humour, pour venir apporter son soutien au café musique Le Sous-Marin de Vitrolles. Une décontraction qui ne fait pas oublier la menace qui pèse sur certaines associations culturelles et sociales, littéralement asphyxiées par les municipalités Front National. Ces associations témoignent, expliquent leur vie au quotidien face à un public jeune, intéressé. Exemple, Lydia, 23 ans, elle habite à quelques kilomètres de Vitrolles.
Pour toi, c'est vraiment important d'être là au débat.
C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont contre tout ça. Ils parlent, mais ils font rien. Là, aujourd'hui, on agit, je pense, d'une manière saine, puisqu'on vient à un concert, on vient écouter, discuter, chose que je pense que Front National ne fait pas.
Les 760 adhérents au Café Musique Le Sous-Marin n'ont pas été de trop pour préparer le concert. Aux côtés de Noir Désir, Tux, Miossec, le groupe vitrolais Biocide. Et surtout, ne leur parlez pas de privilèges.
C'est un privilège dont on se serait bien passé. Sous-Marin, on y a toujours été. Donc le fait qu'on soit là ce soir, c'est un peu une démarche normale pour représenter un peu tous les groupes de Vitrolles qui ont toujours travaillé avec le Sous-Marin et qui ont toujours été aidés par le Sous-Marin. En termes de résistance, il faut rester à Vitrolles, il ne faut pas leur laisser la municipalité. Et si plus tard les choses évoluent, il faudra toujours rester pour que le Front National perde un peu de sa superbe.
4000 places vendues, ce soir on bat les records, le stadium affiche complet.
On a pris des cheveux blancs depuis.
Alors c'est un moment où il y a beaucoup de groupes punk ou de rock alternatif qui passent dans le sud aussi, et ça va contribuer à créer, à cristalliser aussi cette scène. Est-ce que tu peux nous parler de ces quelques années au Sous-Marin et du projet?
Oui. Il y avait aussi, avant le Sous-Marin, il y avait quand même des histoires avec la fac, le Bahut, les concerts, le rock alternatif, les radios, hein, avec Kill the Thrill et d'autres groupes. Là, je suis un peu ému parce que j'ai vu, il y avait Tillouz, là, qui était là, de Charlie Hebdo, puis il y avait des membres de Charlie Hebdo qui étaient là. Et il y avait le débat, c'est sur le délit de salle musique. On avait monté une tournée musique et citoyenneté, et on parlait du délit de salle musique, comme quoi les musiques de jeunes, elles étaient mal vues. Il n'y a pas de sous, il n'y a jamais de sous pour aider les groupes de jeunes. Il y a du sous pour l'opéra, pour le théâtre, mais pas pour la musique, voilà. Et puis nous, par contre, à Vitrolles, c'est vrai qu'on faisait beaucoup d'échanges avec des villes comme Toulouse, Lyon, Montpellier, beaucoup, l'Espagne, Barcelone, Genève aussi avec l'usine, et beaucoup avec Paris aussi, et Angers, voilà, des trucs comme ça. On faisait beaucoup d'échanges avec les labels, avec Barçu. Moi, quand j'ai fait mon premier concert, en fait, je suis descendu de là où je crêchais avec les collègues, et je suis allé à la cabine téléphonique, j'ai appelé Barçu pour essayer de faire Berrerie et Noir, enfin, que t'aimes pas, mais que je voulais faire à Vitrolles. Ils étaient en grève à l'époque, ils avaient reçu le bus d'argent, là, ils l'avaient donné au Ludwig van 88, et donc du coup on a monté un concert comme ça, c'était le premier d'une longue série. Et après, à force de faire les concerts, on avait envie d'avoir un lieu autogéré. Il y avait une salle dans le centre-ville qui existait, qui s'appelait Salle Gilles Camus, c'était le nom d'un jeune qui était mort en mobilette. On a repeint la salle, on faisait des soirées, et progressivement on a demandé à la municipalité voir si on pouvait l'investir et vivre au quotidien dedans. Donc là, on a changé le nom parce qu'on trouvait ça un peu morbide, une salle qui porte le nom d'un jeune décédé. On l'appelait le Sous-Marin par rapport au underground, sous l'eau, l'image du Sous-Marin jaune aussi des Beatles, enfin c'était rock, ça nous convenait bien. Voilà. Et c'était aussi une salle qui était souterraine, donc il y avait une nappe phréatique autour, donc elle était inondée aussi. Donc les gars du technique l'appelaient souvent le Sous-Marin, donc on a gardé le nom, on trouvait que c'était pas mal. Voilà. Et là, on a commencé à faire plein de concerts et à s'organiser. Et après, on a développé aussi une partie qu'on a appelée la politique de rock institution. Ouais, on a négocié avec le ministère de la Culture, parce qu'à l'époque, il y avait Jacques Lang qui était au ministère de la Culture, qui avait lancé un programme qui s'appelait 80 Cafés Musique, à l'horizon, je sais pas combien. Et donc, du coup, on a interpellé la DRAC, la ville, pour essayer d'avoir des sous, pour pouvoir faire monter une salle, quoi. Et donc, à l'époque, donc c'est en 90, 92, 93, on ouvre en 93, on peut ouvrir un concert avec, une salle de concert avec du son, de la lumière, un bar, de la bière, des choses comme ça. Ça fait un super lieu de vie, mais maintenant, je crois que ça serait très difficile de faire la même chose.
Merci beaucoup Loïc. Est-ce qu'on repasse un petit peu sur les archives ou avant on fait une pause musique?
Ouais,
Marc, on fait une petite pause musique parce que là c'est très. Si tu veux. Alors, est-ce que tu peux un peu les tournées, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu du groupe des Warrior Kids, la discographie ou voilà.
Mais la discographie, je veux dire, comme on est encore en activité avec John Currier qui veut pas venir, je sais pas pourquoi là. Il est là-haut là. On vient d'enregistrer le 10e album, donc ça fait pas trop mal depuis le temps. Nous, on est tombé là-dedans. Après, ça s'est beaucoup précipité après 2000 aussi, quand même. Il faut dire, grâce à Momo qui avait sorti une discographie officielle du groupe pour un petit peu faire une compilation, quoi. Et puis après, on s'est
pris. Qu'il y a un chat mort.
Hein ?
Je crois qu'il y a un chat mort. Ah.
Puis après, on a enchaîné, et puis ça s'est jamais arrêté. Et puis, c'est vrai qu'on a découvert qu'il y avait des gens un peu partout qui étaient intéressés. Et donc, on a joué un petit peu partout en Europe, c'est-à-dire en Suède, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Belgique, et puis aux États-Unis, au Canada. Et voilà, quoi. C'est juste qu'on fait notre petit bonhomme de chemin. C'est tout sans se préoccuper des autres, ni. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la musique avant tout. Hein. C'est le reste. Chacun son parcours personnel, chacun met sa pierre à l'édifice. Et puis, en toute modestie, hein, parce que on ne vit pas de la musique déjà, et on est à Marseille, quoi. C'est tout. Hein. Après, c'est bien avec le recul de voir qu'il y a des gens qui aient fait des choses comme Loïc ou Momo. C'est vrai que nous, dans l'orga, non, hein, on n'était pas, c'était pas notre truc. Mais voilà, quoi, le parcours, c'est un parcours un peu personnel, un peu, j'allais dire, atypique de quelqu'un qui travaille, qui est passionné par la musique et qui continue à en faire.
Ouais, je pense que c'est ça, en fait, qu'on écoute du punk, de la hoï, du hardcore ou du rock alternatif, en fait, le leitmotiv, c'est la passion. Moi, quand j'organisais des concerts, la semaine je travaillais, le soir j'allais afficher à minuit, 2h du matin pour pas se faire arrêter par les flics. Et le lendemain à 8h j'étais au taf et le week-end j'organisais mon concert et le lundi je reprenais l'organisation d'un autre concert. Et ma thune je la passais dans l'orga des concerts, quoi, c'est ça. Et c'était voilà, c'est vraiment une passion et sans demander quoi que ce soit. Enfin, j'attendais. En fait, tu n'attends pas de retour particulier, tu le fais parce que tu aimes ça, en fait.
Tu as envie de le vivre.
Pour moi, c'est ça, le punk, c'est parti de ça. C'est, tu vis le moment présent. Moi, j'en ai rien à foutre du passé, entre guillemets. Je connais le passé, même très bien, parce que je me suis intéressé. Je pense qu'en fait, c'est le présent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Tout ce qui s'est passé depuis 20 ans ou 30 ans, je le connais, on peut en parler. Mais moi, par exemple, moi, je m'intéresse toujours actuellement à la scène punk qui se passe en France et dans le monde. Pour moi, il y a une évolution, c'est un changement qui peut être radical pour certains, mais voilà, c'est maintenant. Et puis, c'est ça, tu le vis toi, tu le vis personnellement.
Soit pour être acteur, soit tu pouvais jouer de la musique, soit tu étais artiste. Donc, c'était pas notre cas, nous, on faisait de l'organisation parce qu'on n'avait pas la chance de savoir chanter ou jouer d'un instrument. Contrairement à Bobo.
L'important, c'est qu'il y avait des lieux. C'est-à-dire qu'à part la maison hantée qui perdure, j'ai fait un concert en 79 ou 80 dans une boîte qui s'appelait le Carrousel à Château-Gombert. On avait eu Kessabs en plus. Tu jouais avec un ampli 30 watts, tu avais une basse avec trois cordes parce que tu n'utilisais pas la quatrième, hein, j'ai des buts. Et tu avais des gens qui te faisaient jouer, quoi, quand même. Et ça, c'est chouette. Mmh. Je dirais, alors de nos jours, peut-être qu'on demande un peu plus de cursus, j'en sais rien. Il y a encore quelques lieux.
Tout a été uniformisé, donc quand tu veux monter, même si Pascal il disait on peut ouvrir encore maintenant à Marseille un bar comme ça à l'arrache, ouais, tu peux le faire encore. Je pense que il durera pas trop longtemps.
Je pense aussi.
Il durera pas trop longtemps, mais moi je sais par exemple à l'époque dans les années voilà on parlait, moi j'avais ouvert un bar associatif. Tu prends un local, tu montes un bar, tu sers de la bière comme ça, tu n'as pas de licence, tu as des punks, tu as des skins, tu as des rockers à l'intérieur. Le black hole, ça s'appelait le black hole. Avant d'avoir une descente de flics, puis de toute façon, quand les flics ils arrivaient, il y avait 150 ou 200 gugus dans la salle ou dehors. Les concerts à la maison hantée qu'on parlait tout à l'heure, quand on parlait des concerts de trash, de death metal, de punk ou d'hardcore, tu avais 80 personnes à l'intérieur, tu en avais 300 dehors. Donc les flics débarquaient là. c'était même pas la peine, quoi. Ils repartaient direct.
Mais je pense qu'on était même un peu plus libre. Hein. Je veux pas faire
ouais,
le
je pense qu'on est
ouais, con, on était un peu plus libre. Libre.
Ouais, après, il y avait
un
lieu dont on ne parle pas à Marseille qui s'appelait le Flipper, qui était le bois de.
Ouais, lui. Le Flipper, bien sûr.
Putain, mais il y a eu des concerts, Cramps, Suxy and the Benchies, Beat, English Beat, Le Gun Club, The Outcast. C'est un truc de malade, quoi. Je dirais, il devait avoir un gars un peu plus âgé que nous à l'époque, il devait être passionné. Mais bon, c'est quand même une boîte de nuit.
Après voilà, c'est vrai qu'il y a eu une période de creux.
Ouais,
il y a eu une période de creux, mais ça, en fait, c'est la période creuse, elle a été dans, au niveau de la scène internationale. Hein, milieu des années 80,
ouais,
Qu'il y avait quasiment plus de groupes punk. Les mecs, ils étaient tous shootés, ils étaient tous fait escroquer par les labels.
Tout ça en retraite.
Voilà, quand moi j'allais à Londres à cette époque-là, tu avais des concerts de punk, mais tu avais aussi beaucoup de concerts de psychobilly, de rockabilly, des choses comme ça. Et tu avais moins de choses. Et ce creux est arrivé à ce moment-là, et nous, enfin moi je sais que je me suis mis à organiser des concerts à ce moment-là. Loïc, on s'est connus après, on a commencé à travailler ensemble. En fait, l'idée c'était de créer une dynamique. Le punk aussi, c'est ça aussi pour moi, c'est de créer une dynamique. C'est-à-dire que tu es dans ton coin, tu connais d'autres personnes qui sont dans un coin, et tu crées une dynamique et tu te dis, bon voilà, on va avancer, on pense la même chose, on pense pas forcément sur tout, mais on crée un mouvement, on crée une dynamique. Toi, tu fais une radio, toi, tu fais un fanzine, toi, tu fais un groupe, moi, je vais organiser des concerts et on avance ensemble. Ça dure un temps, mais c'est ça pour moi, le punk aussi. C'est cette dynamique-là que tu n'as pas forcément, alors peut-être plus maintenant, parce que ça s'est uniformisé, mais pour moi, c'est ça, le punk. C'est, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une dégaine.
Et puis c'est le do-it-yourself aussi, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs comme maintenant.
Ah ouais,
donc on faisait le découpage.
Moi, tous les documents que j'ai là, c'est, ils sont sous des pochettes plastiques, parce que il y en a qui sont, c'est des extraits de journaux, ça se colle dans le plastique, ça se colle dans le papier, donc. Vous savez, c'était fait avec je me rappelle plus comment ça s'appelait, le truc avec la Renéo, avec l'alcool, là, vous voyez. Voilà, tout ça, c'est des trucs qu'on garde et qu'on colle et qu'on. Moi, quand j'ai envoyé ça cette semaine à Marine, la moitié des trucs étaient collés. Je me suis dit jamais je vais arriver à les faire revenir. Mais bon, voilà, c'était. Les skins étaient là aussi dans les années 80. En fait, à Marseille, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, on traînait tous ensemble. Voilà, on traînait tous ensemble. Les punks, les skins, les métalleux, les hardcoreux, les psychobilly, en fait, puisqu'on n'avait pas de lieu. On n'avait pas chacun. Alors, il y avait un ou deux bars à droite à gauche comme ça. Et en fait, on se retrouvait tous à la maison hantée. C'était le centre du monde pour nous, la maison hantée. Et c'était le QG, en fait, on se retrouvait là et on était à la plaine le cours juin, en fait. Voilà, c'est ça. On se retrouvait tous là et on se battait entre nous. Des fois, ça partait en couilles, mais ça, c'est parce qu'on est, on était bourré ou trop con pour.
Surtout Ahmed. Oui.
Et Ahmed, il est parti.
Il est parti.
Ouais.
Et non, est-ce qu'on n'ouvrirait pas la table ronde un peu aux questions rapidement, s'il y a des commentaires, des questions.
Voilà, j'avais une question pour Marc particulièrement, puisque c'est le plus ancien. On est en train de parler de lieux sympathiques, on fait du rock depuis les années 80. Marc était en place à cette époque avec son groupe. Combien de salles on vous a refusé à cette époque?
À Marseille, beaucoup.
Pour quelle raison?
Parce qu'il y avait des rasés. C'est des raisons politiques qui n'avaient
pas lieu d'être. Donc on peut dire qu'il y a un certain sectarisme dans la scène punk.
Ah, tout à fait, bien sûr. Ben oui, je dirais, il y avait des défauts aussi, bien sûr.
Ah, mais,
à l'extérieur aussi.
Mais c'est pas parce que tu es punk que tu es ouvert. Hein.
Oui. Puis le moment est bien passé pour savoir.
Non, c'est le problème de tout. Mais ça, c'est le problème de tous les mouvements. Tu crées un monde à côté pour critiquer un monde, l'autre, le monde lambda, on va dire.
Ouais.
Et en fait, tu recrées le même monde. C'est pas parce que tu as une dégaine de punk, de skin ou de hardcore, ce que tu veux, tu es un con, t'es un con.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Donc les gens qui.
Le dernier, c'était à Dijon, les tanneries. Pour nous, c'est les tanneries à Dijon, le dernier. Même moi,
quand j'ai organisé. Moi, je suis pas skin, j'écoute de la Hoy depuis tout le temps. Quand j'organisais des concerts de Hoy, j'ai organisé Business à Marseille, à l'Espace Julien.
Que des merdes.
C'est parti en live. Tout le concert, quoi. J'étais obligé, tu t'en rappelles, voilà. Quand on est con, on est con. Moi, quand j'ai organisé mon premier concert à l'Arsenal des Galères, c'était c'était pas encore les gars du trolleybus, c'était encore l'ancien patron. Le mec, tu lui parlais de rock, il t'a dit ah non mais moi c'est bon, j'ai déjà fait des concerts de rock avant. La souris déglinguée, Gogol premier qui a égorgé des poulets, la souris déglinguée ça part en baston général. Ah, j'ai dit toi tu arrives, tu dis ben moi je vais faire un groupe de punk australien, il te dit ah non punk c'est bon quoi. Le mec il m'a quand même annulé la veille le concert. Hein. Voilà. Donc sectarisme, c'est ici, ailleurs, ça a toujours existé.
Ravi de te l'entendre dire.
Ah, mais moi, je suis le premier à le dire. Hein.